Vous écoutez On lit pour vous.
Le pape, Dieu et la guerre. Un texte signé Richard Rétu, publié dans la presse du 6 avril 2026. New York. Au plus fort de la guerre civile américaine, un pasteur a demandé à Abraham Lincoln si Dieu était du côté des forces armées de l'Union, dont le combat sanglant visait à mettre fin à la sécession des États sudistes ainsi qu'à l'esclavage. Citation: Monsieur, ma préoccupation n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Ma plus grande préoccupation est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. Fin de citation, a répondu le 16e président des États-Unis, offrant à la postérité une de ses déclarations les plus mémorables. Plus d'un siècle et demi plus tard, un natif de la terre de Lincoln, surnom officiel de l'État d'Illinois, refuse à son tour de présumer de la faveur divine pour une cause politique épousée par une administration américaine. En sa qualité de pape, Léon XIV, baptisé à Chicago sous le nom de Robert Francis Prévost, insiste plutôt sur la nécessité d'aligner les actions nationales sur la justice et la moralité divine. Et le premier pontife états-unien a martelé ce point de vue tout au long de la Semaine Sainte dans des homélies qui semblaient être autant de critiques de la guerre en Iran et du nationalisme chrétien incarné par le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth. Des mains pleines de sang. Le pape a donné le ton à ses interventions lors d'une homélie prononcée le dimanche des Rameaux. S'adressant aux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, il a évoqué, citation, « un Dieu qui refuse la guerre, que personne ne peut invoquer pour justifier la guerre, qui n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre. » Fin de citation. Comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté en citant le prophète Isaïe, citation, « vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Fin de citation. Léon XIV n'a évidemment pas mentionné Pete Hegseth dans cette homélie, mais tout le monde a conclu qu'il pensait à lui et à ses déclarations récentes. Qu'on en juge. Le 19 mars, le chef du Pentagone a déclaré, citation, « que le Dieu Tout-Puissant continue de bénir nos soldats dans ce combat. Et encore une fois, au peuple américain, s'il vous plaît, priez pour eux chaque jour, à genoux, avec votre famille, dans vos écoles, dans vos églises, au nom de Jésus-Christ. » Fin de citation. Une semaine plus tard, il a ajouté en s'adressant à Dieu au nom des combattants américains, citation, « donnez-leur, ellipse, une violence d'action écrasante contre ceux qui ne méritent aucune pitié. » Fin de citation. Un nationalisme chrétien exacerbé. Lors de la messe chrismale du Jeudi Saint, le pape en a remis une couche. Dans une homélie prononcée à la basilique Saint-Jean de Latran, il a déploré ces trop nombreux moments de l'histoire où la mission chrétienne a été, citation, « dénaturée par des logiques de domination tout à fait étrangères à la voie de Jésus-Christ. » Fin de citation. La logique de domination est pourtant au cœur du projet des nationalistes chrétiens. Et Pete Hegseth la personnifie dans sa version la plus exacerbée, lui dont certains tatouages, et notamment la croix de Jérusalem et la phrase « Deus vult », Dieu le veut, sont liés à une fascination pour les croisades. Citation, « quand on parle de nationalisme chrétien, c'est exactement de cela qu'il s'agit », a commenté Sarah Posner, spécialiste de la droite chrétienne, lors d'un épisode récent du balado de Daily Blast. Citation, Mais ce qu'il faut retenir au sujet de Hexay, contrairement à la version du nationalisme chrétien que l'on observe plus couramment au sein du Parti républicain, c'est que la sienne est une version très extrême de la suprématie chrétienne, selon laquelle nous, chrétiens, serions autorisés à partir conquérir le monde, à vaincre nos ennemis et même à le faire violemment avec un mandat explicite de Dieu. Fin de citation. Une autre vision du christianisme. Léon XIV présente une autre version du christianisme, celle qui est façonnée non seulement par l'éthique de Jésus, mais également par la tradition prophétique de l'Ancien Testament qui insiste sur la justice, le soin des pauvres, des opprimés et des étrangers. Pete Hexay cite d'autres parties de l'Ancien Testament, dont le psaume 144 attribué à David. Citation: « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Fin de citation. Essais semblables rejettent l'idée que Dieu refuse systématiquement les prières de ceux qui font la guerre. Citation: « Il n'existe absolument aucun fondement biblique à cela. » Fin de citation a écrit sur X l'autrice conservatrice Ali Beth Stokey. Citation: « Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu appelle à la guerre pour défendre son peuple. » Fin de citation. Les mots du pape ont peut-être dépassé sa pensée. Après tout, son propre père a servi au sein de la US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Son combat contre le nazisme entrait sans doute dans la définition d'une guerre juste. Mais Léon XIV considère la guerre choisie par Donald Trump comme, citation, « un scandale pour toute la famille humaine ». Fin de citation. Lors de la traditionnelle bénédiction du jour de Pâques, sa première comme pape, il a appelé, citation, « ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres à choisir la paix ». Fin de citation. Quelques heures plus tard, Donald Trump a adressé ce message aux Iraniens sur Truth Social. Citation: « Ouvrez le putain de Détroit, espèce de taré, où vous vivrez en enfer. Vous allez voir. Gloire à Allah. » Fin de citation. Abraham Lincoln n'en reviendrait pas. Fin de ce texte de Richard Rétu, titré « Le pape, Dieu et la guerre », publié dans la presse du 6 avril 2026.
Cinq façons faciles de se faire tuer à vélo à Montréal. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 6 mai 2026 dans le magazine Urbania. Il y a trop de chars à Montréal, Soraya. Permettez que je vous appelle par votre prénom, vous qui avez tellement insisté pour nous convaincre que vous étiez une personne accessible, proche de la population. Alors, faisons comme si nous prenions un café dans ma cuisine d'Hochelaga, la circonscription que vous avez représentée durant 5 ans à la Chambre des communes. Il y a trop de chars à Montréal, donc. Je ne vous parlerai même pas des enjeux environnementaux, car ils ne me semblent pas peser lourd dans les décisions de votre parti. J'irai donc plus simplement. Je vais parler de mathématiques. Vous aimez ça, les chiffres, non? Entre 2004 et 2017, à Montréal, le nombre de véhicules est passé de 854 000 à 969 000, une croissance de 50% plus rapide que celle de la population. Elle ne s'est pas étirée jusqu'à boucher le fleuve et la rivière des Prairies pour accueillir tous ces chars. Elle ne s'est pas raccrochée directement à la rive sud et à l'aval pour nous éviter le bordel des ponts. Le réseau routier de la métropole comprend environ 4050 km de voies de circulation. Selon une étude récente de Polytechnique, 78% de cet espace est destiné à l'auto, contre 20% aux piétons, 1,5% aux infrastructures cyclables et 0,5% aux transports collectifs. Depuis que je suis devenue montréalaise en 2005, j'utilise ces maigres 22% au maximum. Il m'a fallu quelques années avant d'oser le cyclisme utilitaire. J'ai grandi au fond d'un rang des cantons de l'Est, vous comprenez? Pour moi, la bicyclette, c'était rouler dans la gravelle sur des routes où il ne passait jamais plus d'une voiture à l'heure. Je me souviens encore de ce matin de printemps où un charmant collègue rosemontois m'avait ramené à l'UQAM sur son vélo. Le vertige d'être frôlé par les voitures sur Saint-Denis. À l'époque, le rêve n'existait même pas encore en rêve. Je vous raconte tout ça parce que j'ai l'impression que vous vous déplacez rarement sur deux roues. Alors, je vous propose de monter derrière moi, le temps d'un trajet que j'aimerais bien effectuer plus souvent, mais je me garde une petite gêne, vu la dangerosité du parcours. Nous partons d'Hochelaga, évidemment. Nous allons à Montréal-Nord, à la bibliothèque Henri Bourassa, plus précisément. Depuis que j'ai eu la chance d'y être écrivaine en résidence entre 2016 et 2017, on m'engage régulièrement pour y donner des ateliers d'écriture ou faire du mentorat. Roulons d'abord vers l'est sur de Rouen, sur cette si judicieusement nommée piste partagée. En gros, ça veut dire un vélo peinturé sur l'asphalte pour rappeler aux automobilistes qui l'ignorent parfois que les cyclistes sont bel et bien autorisés à utiliser la voie de circulation. Mais ça offre à peu près autant de protection qu'un casque périmé. De Rouen est une rue étroite, à deux sens, bordée d'espaces de stationnement toujours pleins. Petit 1, se faire emportiérer. Depuis mon propre emportiérage en 2016, qui m'a laissé avec un genou droit capricieux, je suis littéralement incapable de rouler à moins d'un mètre d'un véhicule stationné. Un genre de choc post-traumatique, j'imagine. Mais voilà, sur des rues comme de Rouen, quand le conducteur derrière vous s'impatiente, incapable d'attendre 3,5 secondes pour vous dépasser de façon sécuritaire, je serre les dents et je frôle les portières qui pourraient me catapulter sur l'asphalte. Tournons ensuite sur De Chambly, encore une piste partagée, aux joies, et montons vers le nord, où elle se transforme en la 16e avenue. La rue est à sens unique vers le sud, sauf pour les vélos, et c'est là que surgit le prochain piège, qui referme ses mâchoires à l'intersection du boulevard Rosemont. Petit 2. Se faire percuter par le conducteur d'un VUS qui prend son virage trop serré. Ils arrivent à pleine vitesse et s'engagent sur la 16e sans ralentir, du car spreading à fond la caisse sur la voie cyclable, même si, à cette hauteur, de belles bandes blanches délimitent une section strictement réservée aux vélos. Si nous sommes toujours vivantes, continuons jusqu'à Villeray. Bifurquons brièvement vers l'est, jusqu'à la 17e avenue, qui nous permettra de passer sur l'autoroute métropolitaine. Mais attention, il faut rouler sur le trottoir durant la traversée. Ensuite, nous progressons tranquillement dans Saint-Léonard. Jean Rivard, Jean Nicolet, des galets. Le hic, c'est que pour se rendre jusqu'à l'extrémité nord de la ville, il faut impérativement franchir la Grande Muraille, soit le boulevard industriel. Et à cette hauteur, devinez quelle est la seule option ? Lacordaire. Comme dans Rêve Lacordaire, dont la construction vient d'être suspendue par votre administration. Allons-y quand même, et tenez-vous bien, Soraya. Petit 3, se faire buter par un automobiliste qui roule le double de la vitesse permise. Lacordaire est un boulevard que les conducteurs confondent souvent avec une autoroute. Je veux bien, exceptionnellement, rouler sur le trottoir. Pardonnez-moi, amis piétons, l'autocentrisme génère une compétition entre les autres moyens de transport. Sauf que dans cette mer de stationnement accolé aux centres commerciaux et aux bâtiments industriels, même lui ne peut garantir notre sécurité. Petit 4. Être renversé à l'entrée ou à la sortie d'un stationnement. Si nous échappons à tous ces périls, nous déboucherons finalement sur le boulevard Henri Bourassa. Et malheureusement, dans l'Est, nous ne pouvons compter sur le rêve qui s'arrête à l'avenue des Récollets. Pour mémoire, il devait se rendre jusqu'à Lacordaire, mais, encore une fois, votre parti laisse entendre qu'il pourrait abandonner cette dernière section, voire carrément démolir celle qui vient d'être construite. Ainsi, en l'absence de pistes cyclables, même partagées, sur ce colossal boulevard à six voies, tous les dangers précédemment cités nous guettent alors que nous sommes presque arrivés à notre destination. Je pourrais en profiter pour souligner que les secteurs les plus défavorisés de la ville sont les moins bien desservis en infrastructures cyclables, mais j'ose espérer que vous l'aviez déjà remarqué. Et finalement, sur ce colossal boulevard à six voies comme partout ailleurs, une énième menace plane. Petit 5. Se faire frapper par un conducteur obnubilé par son cellulaire. Si vous saviez cette angoisse qui me saisit quand j'aperçois seulement le dessus d'un crâne, preuve irréfutable d'un automobiliste penché sur son appareil. Combien de fois appuie-t-il automatiquement sur la pédale à essence, sans même relever la tête, ignorant la personne qui traverse à pied ou à bicyclette derrière les pare-chocs de plus en plus imposants des véhicules de plus en plus gigantesques? Mais soyez rassurés, Soraya, pour vous, ce n'était là qu'un exercice théorique. Je vous dépose à la bibliothèque et vous pouvez rentrer en voiture. Pour nous, c'est un combat de tous les jours. Et pourtant, malgré la peur, je vous le confesse, j'adore pédaler dans ma ville. Je vous souhaite d'un jour faire l'expérience de cette joie indicible, dévaler une côte, le vent caressant votre visage, le soleil chauffant votre peau. Connaissez-vous un seul automobiliste qui rayonne de bonheur après avoir conduit à Montréal? Et même si vous enleviez toutes les pistes cyclables, tous les trottoirs, et que vous ajoutiez des kilomètres d'autoroute, cela n'y changera rien. La congestion n'est la faute ni des cyclistes ni des piétons. Elle est générée par les automobilistes eux-mêmes. Plus on donne d'espace aux voitures, plus elles en prennent. Et notre île aura toujours la même taille. C'était 5 façons faciles de se faire tuer à vélo à Montréal. Un texte de Juliana Léveillé-Trudel, paru le 6 mai 2026 dans le magazine Urbania.
Ces souvenirs intimes dont on n'arrive pas à se débarrasser. Un texte de Joanne Mercier, paru le 20 mai 2026 dans Virage. Photos révélatrices, journal intime trop bavard, lettres d'amour gênantes, voire troublantes. Si certaines personnes jettent les souvenirs de leur jardin secret au fur et à mesure, d'autres peinent à s'en départir, même des années plus tard. À 65 ans, Agathe a deux petites bombes à retardement dans ses dossiers, des lettres de suicide datant d'une époque de dépression profonde. Avant de les détruire, je voudrais les lire avec Caroline, l'amie avec laquelle j'avais alors conclu un pacte de non-suicide. Mais je néglige de le faire et elles sont toujours là. La jeune retraitée n'arrive pas à s'en départir, mais redoute qu'elle tombe un jour entre les mains de son fils. Comprendrait-il qu'à ce moment précis de ma vie, ma souffrance avait pris le dessus sur mon rôle de mère? Christine comprend très bien cette douleur. En vidant l'appartement de ma mère qui souffrait d'Alzheimer, j'ai trouvé dans ses tiroirs des écrits qui m'ont bouleversé. Elle y étalait toute la souffrance qu'elle vivait avec mon père. Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre que je n'avais rien vu. Et malgré cette expérience, elle se refuse à jeter d'anciennes lettres d'amour qui, un jour, pourraient blesser son conjoint. Maintenir la flamme du passé. Écrivaine, Janine préserve ses écrits pour s'en inspirer, même si elle redoute que ses réflexions intimes soient un jour dévoilées. Tout jeter? Pour moi, ce serait mourir un peu. Ces souvenirs réconfortants portent en quelque sorte le sceau de ma propre histoire. Cette envie de maintenir en vie la flamme de notre passé est assez courante, selon la psychologue José Jacques. Conserver des photos ou des écrits qui réveillent des émotions a souvent pour but de les garder vivantes, explique-t-elle. Mais il faut se rappeler que ces sentiments ont teinté notre histoire de vie, peu importe qu'on en conserve ou non les traces matérielles. Ces secrets qui hantent. Jeannette Bertrand reçoit les confidences du Québec depuis près de 80 ans. Elle est donc bien placée pour savoir qu'Agathe, Christine et Janine sont loin d'être les seules à garder des squelettes dans leur placard. Certaines personnes m'ont confié vouloir déposer le tout dans une boîte avec l'inscription « Pour destruction au moment de mon décès ». À ne pas faire, car personne ne va respecter cette consigne. Au contraire, cela annonce plutôt un parfum de scandale auquel peu de gens résisteront. Pour la centenaire, pas de doute, il vaut mieux pratiquer le détachement et se débarrasser dès maintenant de ces souvenirs qui risquent de hanter nos proches après notre départ, alors qu'ils doivent faire face au deuil. Quand on meurt, on veut laisser le moins de troubles possible derrière soi. Garder une copie d'une lettre destinée à sa meilleure amie où tu lui dis que tu n'as jamais été amoureuse de ton mari, ça ne donne rien. Il y a des vérités qui sont complètement inutiles une fois que les années ont passé. Le tri, un rituel. Si vous voulez suivre les conseils de Jeannette et faire table rase de vos souvenirs précieux, José Jacques suggère de planifier le geste et de l'inscrire dans un rituel. Il s'agit de mettre en place différents éléments pour donner un sens à notre décision, explique-t-elle. Pourquoi ne pas rassembler ce dont on veut se départir, choisir un moment et un lieu précis pour tout brûler et disperser les cendres dans un endroit significatif? Ce geste peut aussi s'accompagner d'une intention clairement formulée, comme faire la paix avec son passé. Vous direz peut-être que tout cela n'a finalement pas d'importance, puisque la personne concernée ne sera plus là pour assister à la réaction de ses proches ni pour mesurer l'onde de choc émotionnel que ces découvertes pourraient provoquer. Mais au fond, n'est-il pas préférable de laisser derrière soi un souvenir apaisant plutôt qu'une blessure inutile? À moins, bien sûr, de choisir d'aborder ces vérités de son vivant. Mais ça, c'est une discussion pour un prochain article. C'était « Ces souvenirs intimes dont on n'arrive pas à se débarrasser ». Un texte de Joanne Mercier paru le 20 mai 2026 dans Virage.
Météo, plus ça change et plus c'est pareil. Un texte de Simon Bolduc de l'Itinéraire paru le 30 mai 2026 dans la presse. C'était le mercredi 11 mars 2026. Ce matin-là, une grande partie du sud du Québec était sur le qui-vive face à l'annonce d'une précipitation majeure de pluie verglaçante. Écoles, bureaux, commerces avaient décidé de fermer. Pourtant, la tempête qui a mis tout le monde en alerte ne s'est pas matérialisée. Une situation qui fait encore jaser. Pour avoir l'heure juste quant à la fiabilité ou pas des prévisions météo, l'Itinéraire s'est rendu dans les locaux de Météo Média. Entrevue. Premièrement, on ne peut pas dire que la tempête de verglas du 11 mars n'est pas arrivée, corrige d'entrée de jeu Patrick de Bellefeuille, à l'antenne de Météo Média depuis 38 ans et expert en matière de changement climatique et de météo extrême. Si les Québécois-Québécoises s'attendaient à une potentielle tempête historique rappelant le traumatisme collectif de l'hiver 1998, beaucoup moins de pluie verglaçante s'est accumulée au sol. C'est quand même 54 000 foyers qui ont été privés d'électricité, rappelle-t-il. André Monette, son collègue prévisionniste et chef d'équipe des météorologues, explique quant à lui qu'une prévision de verglas, c'est hyper complexe. C'est le phénomène météo le plus difficile à prévoir. C'est une goutte de pluie qui se change en grésil ou qui gèle au sol. Un léger changement de température peut tout changer. Panique et désinformation. En plus d'analyser et d'interpréter les systèmes météo, André Monette et ses collègues écrivent des articles de vulgarisation scientifique sur Météo Média et sur The Weather Network, son pendant anglophone situé à Oakville, en Ontario. Malgré l'effort mis à expliquer scientifiquement les phénomènes météo, certains climato-sceptiques ont une grande portée sur les réseaux sociaux, croit M. Monette. Certains vont toujours chialer et souvent, ils ont autant d'attention sinon plus que nous. Nous, on est dans l'explication basée sur des faits. Et oui, il vaut mieux prévenir que guérir quand on voit une tempête arriver. En plus des réseaux sociaux, il y a malheureusement d'autres médias qui vont prendre un ton apocalyptique. Une science exacte. Premièrement, On ne dit pas prédire la météo, mais prévoir. Deuxièmement, la météo n'est pas une science inexacte, comme le pensent certains, précisent les deux collègues en entrevue avec l'itinéraire. À la base, la météo, c'est de l'eau, du froid et du chaud, explique M. de Bellefeuille. C'est une science de l'atmosphère qui relève de la physique. Ce sont des formules mathématiques qui intègrent des variables X, Y, Z, définies à partir de la compilation des données recueillies dans les stations d'observation. En théorie, poursuit-il, si l'ensemble de la surface du globe était couvert de stations à chaque kilomètre carré, il serait possible de prévoir la météo avec une précision proche de 100%. En pratique, c'est autre chose. Sur les continents, c'est faisable, mais la Terre est composée à 75% d'eau. Sur l'océan, on fait comment? Et quelle machine pourrait absorber autant de données pour générer des modèles météorologiques? Questionne André Monette en précisant qu'un système de bouées est déjà en place dans l'océan Pacifique, mais qu'il dérive tous les 2 ans et doit être repositionné. Changement climatique. Pilier de la couverture des changements climatiques depuis près de 4 décennies, Patrick de Bellefeuille ne comprend toujours pas pourquoi il doit encore se battre pour convaincre les climato-sceptiques de la réalité des changements climatiques. « Je m'efforce de mettre des études sur la table pour qu'on cesse de penser que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon rôle d'avoir une opinion », pense Patrick de Bellefeuille. Pour illustrer son propos, nul besoin de remonter très loin, dit-il, en évoquant un cas typique de changement climatique et d'erreur d'interprétation des données. À l'été 2025, c'est passé inaperçu, mais on a reçu 100 mm de pluie en une seule journée. En moyenne, il tombe environ 10 mm de pluie pour tout le mois de juillet. Donc, si on regarde les chiffres, la quantité normale est bel et bien tombée, mais il y a eu 30 jours de sécheresse, puis d'un coup, une forte pluie. Dans ces cas, la moyenne reste la même, mais les phénomènes deviennent plus extrêmes. Les changements climatiques ne se manifestent donc pas toujours par un phénomène spectaculaire, ils sont parfois plus subtils, conclut M. de Bellefeuille. C'était Météo. Plus ça change et plus c'est pareil. Un texte de Simon Bolduc de l'Itinéraire paru le 30 mai 2026 dans la presse.